Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, puis de Du crime à mes oreilles. C'est juste pour te dire que cette semaine, le podcast est une présentation de Yannick Bédard de chez Industriel Alliance. C'est notre commanditaire, notre premier commanditaire. Merci Yannick pour ta confiance. Dans le fond, Yannick, qu'est-ce qu'il t'offre? Il t'offre des assurances auto et habitation, assurance vie. T'as besoin d'assurance pour quelque chose, contacte Yannick, il va pouvoir t'aider là-dedans. Peu importe tes besoins, il y a une solution, puis lui, il sait la trouver, puis au meilleur prix sur le marché. C'est pas rien, c'est avec lui que je fais affaire aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de checker. Puis aussi, si jamais tu cherches un job, puis tu te dis, hey, moi, je pourrais vendre des assurances, ben Yannick, il est formateur. Tu peux y envoyer ton CV, puis il peut t'aider là-dedans. Fait que reviens-nous avec ça, va voir son site web, le lien est dans la description, puis je te le dis, tu seras pas déçu avec Yannick. Fait que, allez tout le voir!
Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set...
Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour... annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York.
Tupac Shakur, ironically, on this front.
All right! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. C'est ici Alex aujourd'hui. Je suis accompagné du petit nouveau dans le projet, Monsieur Jonathan.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Correct.
Correct. Fait que premier podcast avec nous autres.
À vie.
Mais non, t'en avais fait un qui a jamais été publié.
Je vais rester sur cette phrase en disant à vie.
Yes. Ben ouais, Joe, tu te joins à nous pour le volet du crime à mes oreilles, notre podcast de True Crime. Tu nous amenais une petite histoire cette semaine.
Ben, je voulais commencer avec Kurt. T'sais, je me suis dit que Kurt, c'est un personnage, c'est plus ou moins connu, mais quand même, Kurt Strubing. Parce que Kurt Cobain, ben, c'est ça, c'est plate.
C'est plate.
Ordinaire. Oh, y a Kurt Strubing que personne connaît.
Ouais, c'est ça. De où t'as entendu un peu cette histoire-là avant que tu nous racontes ça?
Comme je suis plus très jeune, et je viens peut-être d'une époque où est-ce que la découverte musicale passait souvent par les revues. Fait que j'achetais, si je me souviens bien, c'était la revue Hard and Heavy, puis ils donnaient des CD avec. Fait que tu découvrais ta musique à travers en lisant et avec la musique du CD, qui était une compilation que j'ai encore et que j'écoute des fois encore.
Mais c'est quoi tes magazines d'écouter? Tu t'achetais?
C'est Hard and Heavy, ça s'appelait comme ça. Puis il y avait d'autres revues, mais c'était 18 ans et plus, puis ça, j'en parlerai pas vraiment. Puis c'était la source musicale que j'ai découvert beaucoup de groupes de musique à travers ces CD-là, parce que c'était des compilations d'une douzaine de chansons de tous des groupes différents. Fait que c'était vraiment intéressant. Évidemment, ça tournait toujours autour du métal, mais t'avais du thrash, du black, du death, t'avais du heavy, t'avais du speed, t'avais de tout. C'était vraiment intéressant. Et tu avais aussi une section dans la revue, on va dire, faits divers ou plutôt faits étranges. Et en fin de compte, l'histoire de ce gentil Kurt était là. Puis on va savoir pourquoi ça m'a marqué. La situation, l'événement m'a marqué dans ma jeune imagination de 16-17 ans à peu près. Ça m'a marqué.
Ouais, mais c'est ça, c'est quand même... Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le gars. Là. C'est un peu assez obscur.
Le groupe NME, ou plutôt No Mental Effort, n'a pas vraiment, à ce que je sache, explosé sur la scène.
Son histoire a donné un petit boost, mais à part de ça...
Exactement. Je pense que c'est grâce à l'histoire de la vie de Kurt que le groupe s'est fait connaître comme ben des groupes, quand il y a un crime qui se passe dans le groupe, c'est ça qui fait la publicité. Parlez-en mal, parlez-en bien, mais ouais. Parlez-en.
Mais tu sais, ils ont quand même fait des shows, mettons, avec Venom, des trucs de même, quand même des gros shows, mais c'est ça, c'est... Avant que tu me parles de MME, à pas penser que c'est peut-être de la lutte, là.
Il y a Ouais, exactement. Je veux dire, même moi, techniquement, le groupe, j'ai, ça date quand même d'un certain temps que j'ai lu ça, ça m'a marqué, mais le groupe, j'ai jamais rien écouté avant même d'aller sur Internet. Fait que, tu sais, quand tu m'as approché pour le podcast, j'ai fait, oh, bon, il y avait ça, je vais checker, il doit y avoir plus d'informations aujourd'hui sur Internet. Pas de temps.
Pas de temps, hein? Il y a la même article qui se répète 3-4 fois.
Exactement. Ou, tu sais, juste googler le nom du groupe pour écouter. T'avais pas grand-chose, mais en googlant le nom de Kurt Straubing, on l'a découvert, on a vu un peu plus de choses, mais le nom du groupe, il est inexistant ou presque.
Là. Ah ouais, c'est sûr. Ben, c'est sûr qu'on a tapé comme le NME. Je sais pas si c'est No Mental Effort, ça sort plus de choses.
Hein, non, officiellement, ça n'a pas sorti grand-chose. Il y a beaucoup la toune de Napalm Death qui sort, qui s'appelle No Mental Effort. Peut-être que ce groupe-là s'est inspiré de cette chanson-là, mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui sort.
Bon. Fait que c'était qui, un petit peu, Kurt Straubing?
Il est né le 26 novembre 1965. Quand même, sa jeunesse est assez tranquille. Je veux dire, il a été adopté pour X raisons que je ne suis pas capable de trouver pourquoi, par sa mère Darley Straubing. Et je pense que je vais avoir de la misère à le dire tout le long. Sa jeunesse a été quand même correcte. C'est sûr, la musique, le heavy metal l'a attiré. Fait qu'il s'est lancé dans son groupe No Mental Effort, qui a eu un léger succès dans son entourage. Mais le 7 avril 1986, déjà pris avec certains problèmes de drogue.
Et un petit peu de paranoïa.
Et un peu de paranoïa aussi. C'est sûr, les deux ensemble, ça l'aide pas.
Il pensait que lui, il était un robot, hein, c'est ça?
Non, en fin de compte, il pensait que sa mère adoptive était un robot. Okay. Fait que, tu sais, dans la vie, des fois, tu te poses des questions, puis c'est normal de se poser des questions et d'essayer de trouver des solutions.
Des réponses.
Des réponses, exactement. Désolé, des réponses.
Des fois, il y a différentes façons de le faire.
Ouais, exactement. Ouais. Mais lui, il a trouvé la façon, disons-le, peut-être la plus hardcore de le faire, c'est qu'il a décidé de tuer sa mère adoptive à grands coups de hachette et de ciseaux, de l'ouvrir et de vérifier à l'intérieur, voir si c'était un robot. Évidemment, je crois qu'il n'a rien trouvé comme partie mécanique à l'intérieur de sa mère, qui était d'ailleurs sa mère adoptive en plus.
C'est pas pire. Nos deux premiers épisodes ont une ressemblance de paranoïa. L'autre aussi, là, c'était complètement une paranoïa. C'est pour ça qu'il est allé tuer...
Diamondback Dallas.
Ouais, c'est ça qu'il est allé tuer Dimbag, mais c'est fou. C'est-tu que c'est dangereux?
Ben, voilà une certaine époque, d'après moi, les gens qui avaient des problèmes mentaux n'avaient pas le support qu'on a aujourd'hui.
Ouais, puis c'est souvent aussi le genre de personnes là, qu'on parle aussi sont du monde qui sont souvent pas super bien non plus avec les consommations de drogue. Là.
Exactement. Fait que, t'sais, ils n'ont pas le support nécessaire. Fait que, est-ce qu'ils trouvent la solution dans la drogue? Est-ce que ça l'aide? Je ne crois pas que ça l'aide à chaque fois. À date, les deux fois qu'on en a parlé, ça n'a pas été vraiment gagnant. En fin de compte, évidemment, il a été accusé du meurtre du deuxième degré de sa mère adoptive. Il a fait 12 ans de prison.
Ouais, ça, c'est une information que, comme qu'on se disait hors d'onde, c'est qu'on n'était pas certain 12 ou 14 ans.
12, c'est ça, parce que certains articles disent qu'il a fait 12 ans, mais il a arrêté sa sentence était 14 ans, mais il aurait sorti avant de finir son temps. Alors, à savoir qu'est-ce qui a été vraiment dit, on ne trouve pas l'information. Fait que, je sais qu'il a fait de la prison. Mais au moins, en sortant de prison, il s'est amélioré un peu. Il est sorti en 94. Après sa sortie de prison, le groupe aurait changé un peu son style musical. De quelle façon?
En faisant des covers des CDC.
Et peut-être en faisant des covers des CDC. J'imagine qu'un 12 ans de prison, ça change une personne, évidemment. Fait que, mais qu'est-ce que j'ai pu écouter du groupe, moi, j'ai pas vraiment vu de différence entre avant prison et après prison. Peut-être les oreilles plus affûtées que moi pourraient mieux développer, mais désolé, je ne vois pas de différence. La manager, en fin de compte, Lisa Bonner, que j'ai de la misère à dire son nom de famille sans rire, disait qu'il était très actif après sa sortie de prison dans la scène locale du métal. Il participait à des shows, il organisait, il aidait les groupes environnants, ce qui fait qu'en fin de compte, d'après moi, il a appris de ses erreurs et il a voulu vraiment devenir une meilleure personne dans le domaine qu'il connaissait, j'imagine, la musique métal. En cours de dernières années, Bonner a déclaré que Strubing avait aidé à organiser différents shows pour aider des amis et une famille, la famille de John Sullivan, qui jouait de la guitare dans un groupe de métal pour justement les problèmes d'argent et ainsi de suite. Il aurait même aidé à monter une levée de fonds pour un ancien soldat qui était décédé dans un accident d'hélicoptère en Irak. Fait que, déjà là...
Il essayait de devenir une meilleure personne.
Une meilleure personne, c'est ça. Non seulement il était actif dans la musique locale, mais aussi dans la communauté en général.
Mm-hmm.
Fait que, il s'appliquait localement. Sauf qu'en le 9 mars 2005, Strubing... Je sais pas ce qui s'est passé. Ça reste un mystère encore aujourd'hui. Il est en voiture. Il roulait tranquille.
Il se balade.
Il fait une balade. Il faisait beau. Il fait une petite balade en auto. Arrive à un pont tournant, le Southwest Pokin Swing Bridge. Arrive là. Le pont tourne à cause qu'il y a un bateau qui passe. Il attend. Puis tout d'un coup, il décide de sortir de sa voie, de continuer et de tomber 60 pieds plus bas à sa mort. L'enquête, pour l'instant, et sûrement pour le restant de nos jours, ne saura pas pourquoi il a décidé de faire ça. Certaines personnes disent qu'il était sous influence de la drogue et d'autres disent qu'il était juste suicidaire. On ne le saura jamais.
Ouais, peut-être qu'il s'en voulait finalement d'avoir tué sa mère adoptive.
Peut-être. C'est juste étrange du jour au lendemain. Peut-être qu'il était dépressif et qu'il n'avait jamais parlé, parce qu'il y a bien des chanteurs que c'est arrivé. Le chanteur de son... comment que c'est... je m'en souviens plus du nom. Là, je suis fâché, je me souviens plus du nom. Mais il y a des chanteurs dépressifs que, justement, du jour au lendemain, ils suscitaient. Le chanteur de Linkin Park puis son ami...
Soundgarden.
Ouais, Soundgarden. Chris Cornell, c'est ça. Ces deux-là se sont comme suicidés par dépression d'un an de différence. Fait que peut-être que notre Kurt ici présent, c'était la même chose. Du jour au lendemain, oui, il a peut-être essayé de faire son mieux, mais en dedans de lui, il restait coupable.
Puis, tu sais, c'est ça, comme qu'on dit, comme tu sais, il y avait des problèmes de consommation aussi. Est-ce que c'est revenu? On le sait pas. Est-ce que les problèmes, justement, de santé mentale sont réglés ou sont enfouis quelque part?
Puis sur le bord d'un pont, il s'est dit, ben... C'est ça.
Je
Today is the day.
Yes, ben, man, grosse affaire. Je comprends que ça l'ait intrigué un peu ton...
Ma jeunesse.
Ta jeunesse. C'est quand même une histoire assez fucked up. Là.
Ben, je veux dire, c'est arrivé quand même... Je sais pas si... C'est arrivé avant... Parce que je me suis intéressé un peu au true crime. Je te dirais plus dans ma vingtaine. Avant ça, c'était tout ce qui était bizarre m'a intéressé. Et le true crime, je veux pas, s'il y a de quoi de plus bizarre que ça, la réalité dépasse la fiction, comme on dit.
Ouais, ouais.
Puis je pense que c'est peut-être mon premier rapprochement avec le true crime ou d'histoire glauque que j'ai connue. Ça m'a fait plaisir d'en parler. Et évidemment, lui, c'était un peu plus dur à en parler. Je voulais en parler parce que c'était quand même... ma première connaissance du true crime.
Ça te ramenait à ta jeunesse.
À ma jeunesse. Mais j'étais un peu déçu en même temps de ne pas avoir trouvé plus de choses sur cette histoire-là.
On va pouvoir s'en reprendre pour d'autres. Là.
Exactement. Les prochains, je vais trouver des choses plus étoffées et un peu laisser tomber ma nostalgie. Ça va peut-être aider un peu.
Ben, c'est correct. Ben, j'invite le monde à aller découvrir NME.
Pour ceux que ça l'intéresse.
Le bon, bon black metal de Kurt Strubing. Moi, je n'ai pas capoté.
Moi non plus. C'est assez ordinaire.
Si on peut faire un petit volet du bruit à mes oreilles, là, ça n'aurait pas été un 10 sur 10. Non.
On se pose pas de question du pourquoi que ça a pas levé, excepté à cause de l'histoire glauque de Kurt.
Ouais, c'est ça. Mais super histoire, man. En espérant qu'un jour, on ait un petit peu plus d'informations sur ça. Puis si jamais on en trouve, puis tout ça, ben on fera des petits ajustements éventuellement dans d'autres épisodes. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous pouvez nous suivre un peu partout, Facebook, Instagram. On a notre site dubrunmesoreilles.com. Pour ce qui s'en vient sur le podcast, je sais pas, ça va être Kevin, le stagiaire, le prochain.
Le stagiaire, stagiaire pour de vrai?
Hein? C'est son titre. C'est son titre officiel sur le podcast. Fait que c'est ça, Kevin le stagiaire sera là avec une autre histoire de True Crime pour du crime à mes oreilles. Sinon, on vous dit
à la prochaine et au plaisir.
Yes, sir!